France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
France Culture, 7h40. Bruxelles menace maintenant l'Espagne et le Portugal. Réunis depuis hier, les ministres de la zone euro pourraient aujourd'hui ouvrir la voie à des sanctions contre Madrid et Lisbonne, passibles d'une lourde amende pour cause de dérapage budgétaire, faute d'efforts suffisants dans la réduction de leur déficit. Dans un contexte européen tendu, depuis le choix des Britanniques de sortir de l'Union européenne, et alors que Londres s'apprête à accueillir sa nouvelle Premier ministre, déjà mal aimée, en panne de projet, l'Europe avait-elle besoin de ça? N'est-elle bonne qu'à sanctionner? Nos invités ce matin, je vous le disais, Agnès Benassi-Quéret, professeure à Paris 1, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique et co-auteure de politique économique. À ses côtés, Laurent Cialhomme, professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, membre d'Economics, auteur de l'économie bancaire à La Découverte. Qu'est-ce qui se passe, Agnès Benassi-Quéret? Ils s'en foutent, ces Européens, non?
Non, pas du tout. Les sanctions qui sont envisagées contre le Portugal et l'Espagne, d'une certaine manière, c'est un peu le dernier train avant fermeture des règles budgétaires. C'est-à-dire que si ces sanctions ne sont pas imposées, au moins symboliquement, c'est-à-dire que, bon, ça donne un peu de temps avant que le processus politique se mette en œuvre et qu'elle soit effectivement appliquée, il faut voir qu'en Allemagne, les gens sont vent debout contre la Commission européenne qui est incapable de faire appliquer les règles. Alors on pourrait dire que les règles sont inadaptées. Moi je pense que c'est le concept même de sanctions qui pose problème puisque en fait on impose une dépense supplémentaire à un pays qui n'arrive pas déjà à atteindre les objectifs de déficit. On peut envisager d'autres mécanismes pour inciter à donc réduire les déficits. Dans le cas de l'Espagne, si vous voulez, la croissance est repartie. C'est pas absurde de réduire les déficits en Espagne, sauf qu'il n'y a pas de gouvernement en ce moment, donc c'est un petit peu délicat.
Mais c'est pas
absurde. Ce qui manque en Europe, c'est un soutien des pays qui font des efforts budgétaires, c'est-à-dire qui font des efforts budgétaires dans un désert où il n'y a personne pour soutenir l'économie, soutenir la demande. Et en particulier, l'Allemagne ne soutient pas la demande dans la zone euro, alors que l'Allemagne a des marges de manœuvre.
Alors expliquons, la procédure ouverte pourrait déboucher sur un gel des fonds structurels de l'Union européenne et une forte amende, ce serait une première. Face à la montée de l'euroscepticisme, quand même, Laurent Cialhomme, la réponse de Bruxelles pourrait être des sanctions financières contre deux pays qui, Agnès Benassi-Quéret l'évoquait, tout en multipliant les efforts, peinent à sortir de la crise. Étrange signal.
Oui, tout à fait. Je pense que franchement, ça arrive au pire moment, c'est-à-dire au moment du Brexit, comme on nous l'avait dit, après la crise grecque, enfin les différents épisodes de la crise grecque, on allait changer les choses, on allait introduire plus de solidarité, et finalement on voit bien que, apparemment, c'est le statu quo qui domine au Conseil européen qui a juste suivi le Brexit. On pensait qu'il y avait peut-être des propositions qui allaient être mises sur la table. Aucune n'a été mise sur la table. On est dans un contexte de très forte montée de l'euroscepticisme, de fort déficit démocratique dans l'Union européenne. Et sincèrement, ça arrive au pire moment. D'autant plus que l'Union européenne, comme un tout, n'a pas de déséquilibre macroéconomique grave. Et c'est vraiment le sentiment d'une victoire d'une ligne, en l'occurrence la ligne allemande aujourd'hui, sur le reste de l'Europe. Le risque est évidemment une déliquescence progressive de l'Union européenne.
Et c'est aussi ça qui est intéressant, parce que, donc, juste pour redonner 2-3 chiffres à ceux qui nous écoutent, un déficit public espagnol qui atteint l'an passé les 5% au lieu des 3, 4,4% pour le Portugal toujours au lieu des 3%, Madrid et Lisbonne ont certes pas atteint les objectifs budgétaires qui ont été fixés, mais est-ce qu'il est prouvé quelque part que la rigueur budgétaire à l'allemande soit bonne pour tous? Est-ce qu'elle a des vertus démontrées, Agnès Benassi-Quéret et Laurent Cialhomme?
Il ne faut pas inverser les arguments, c'est-à-dire qu'un pays ne peut pas rester en énorme déficit pendant des années, ça veut dire qu'il va accumuler de la dette, et cette dette accumulée le rend extrêmement fragile par rapport au marché. On le voit avec l'Italie, où tout le monde est absolument terrifié à l'idée que les marchés, d'un seul coup, se détournent de la dette italienne, et ce qui provoquerait une crise majeure. Donc, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les finances publiques ne peuvent pas déraper comme ça de manière infinie, et que ce n'est pas la bonne recette pour avoir de la croissance. Toute la question, c'est à quel moment fait-on l'ajustement budgétaire, et est-ce que c'est une bonne idée de le faire tous en même temps, comme on l'a fait à pas de géant, notamment en 2012 et 2013, lorsque l'économie européenne a rechuté. Bon, qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui on a deux effets un peu contraires. D'un côté, avant Brexit, si vous voulez, la croissance repart et donc l'ajustement budgétaire est justifié. C'est le bon moment pour le faire, en réalité. Mais maintenant, nous avons une révision à la baisse des chiffres de croissance, notamment pour 2017. Le FMI vient de revoir à la baisse la croissance de la zone euro. Et le problème, c'est que nous sommes nus par rapport à ce risque de ralentissement et de la croissance et de remontée en fait du chômage.
Laurence Yalom.
Oui, et là où on voit bien que c'est vraiment deux lignes qui s'affrontent, d'ailleurs la Commission a eu beaucoup de mal à prendre cette position, hein, c'est que dans le cas du Portugal notamment, on risque de relancer la crise de la dette souveraine, dans la mesure où actuellement la dette portugaise est éligible au quantitative easing parce qu'il y a encore une agence de notation canadienne qui lui octroie une notation lui permettant d'être éligible. Avec ces sanctions, si elles sont adoptées, cette agence de notation risque de réduire cette note. Et à ce moment-là, le Portugal risque de voir exploser ses coûts de financement et donc être dans une situation encore plus compliquée pour réduire son déficit public. Donc, sincèrement, le problème est vraiment de l'équilibrage des efforts et il faut que les pays qui sont en excédent, notamment en excédent courant majeur, fassent une véritable relance. Et l'Allemagne au premier chef. Le problème étant qu'il y a des élections en Allemagne et que Mme Merkel est fragilisée et donc on risque d'être encore paralysé pendant un an. L'Europe ne peut pas se permettre ce luxe.
Si cette décision est budgétairement juste, il n'empêche que l'Union européenne souffre d'un réel problème de communication, problème soulevé par Christine Lagarde du FMI que vous évoquiez à l'instant, Agnès Benassi-Kéré, à qui n'a pas échappé le décalage massif entre les perceptions des peuples européens et la réalité de ce qui se passe. Et justement, c'est aussi et toujours dans ce contexte de défiance à l'égard du sentiment européen et de fermeté des institutions, qu'on a appris le recrutement comme conseiller de l'ancien Premier ministre portugais et ancien président de la Commission européenne de José Manuel Barroso par la banque d'affaires américaine Goldman Sachs. Les banques s'interrogent en ce moment sur leur stratégie à l'heure où la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait quelque part redessiner leur ancien homme, la carte financière européenne. Quel profit d'une banque comme Goldman Sachs, qui concentre pour l'instant à Londres l'essentiel de ses activités, peut-elle tirer de son expérience politique, celle d'Emmanuel Barroso, au sein des institutions européennes?
Il est clair que le recrutement d'Emmanuel Barroso, c'est le recrutement d'un carnet d'adresse en réalité, puisque c'est un directeur non exécutif qui est recruté, et c'est le tollé que ça provoque est, à mon sens, parfaitement justifié dans la mesure où Goldman Sachs, c'est pas n'importe quelle banque. Goldman Sachs, c'est quand même la banque qui a contribué au maquillage des comptes grecs et qui lui ont permis de rentrer dans l'euro. Par ailleurs, cette porosité, disons, entre les hauts fonctionnaires européens, mais les hauts fonctionnaires français également, hein, et les grandes banques pose un vrai problème et je pense fait partie de ce cocktail de rejet des élites et de cette porosité alimente, à mon sens, le populisme auquel on est confronté, mais ça ne touche pas que des hauts fonctionnaires. Ça, par exemple, il y a eu des tas d'autres scandales. Hein. Vous avez eu une eurodéputée britannique qui avait en charge à la Commission des affaires économiques et financières la directive EMIR sur les dérivés, etc., qui a été recrutée par le London Stock Exchange. Enfin, il y a un think tank qui s'appelle Corporate Europe Observatory qui fait des travaux très, très poussés sur les revolving doors, c'est-à-dire ces portes tournantes, et qui quantifie ça, qui a publié un rapport en janvier 2016 justement sur le devenir des commissaires de la commission Barroso, et c'est sidérant, sincèrement, c'est sidérant. Donc, je pense que typiquement, c'est un sujet sur lequel il faut légiférer et être beaucoup plus strict.
Agnès Benassi-Kéré, une réaction juste pour mémoire. Hein, José Manuel Barroso en fonction jusqu'en 2014 à la Commission. Est-ce qu'on frôle pour vous le conflit d'intérêts?
Alors, moi, je ferai pas conclusion trop générale. Je pense qu'on peut pas à la fois se plaindre du fait que les fonctionnaires sont dans une tour d'ivoire, ne connaissent pas la vraie vie, et s'offusquer à chaque fois qu'il y a des allers-retours entre le secteur public et le secteur privé.
Ça, c'est exactement ses arguments à lui, en tout cas.
Ce sont ses arguments à lui. Mais en l'occurrence, c'est pas n'importe où dans le secteur privé, et c'est pas n'importe qui. Et là, la conjonction du fait que c'est l'ancien président de la Commission, c'est la banque Goldman Sachs, et c'est juste avant le Brexit, donc pour aider Goldman Sachs à faire du lobbying en réalité pour conserver le passeport financier, donc pouvoir servir l'ensemble des pays de l'Union européenne malgré le Brexit. Donc tout ça ensemble, c'est vrai que ça apparaît un peu comme une trahison.
Le passeport européen, c'est-à-dire ses entrées, l'entrée des établissements financiers sur le marché européen. Laurence Yalom.
Oui. C'est vraiment un enjeu majeur, le passeport européen, pour la City en général. Hein. C'est-à-dire que c'est le fait que dès lors que vous obtenez l'agrément, disons, vous avez le droit d'offrir des services dans l'ensemble de la zone. Normalement, si Brexit il y a et si il n'y a pas conformité avec la libre circulation des hommes, des capitaux, des services et des marchandises, le passeport européen ne devrait pas être accordé, ce qui est un cataclysme pour la City. Et c'est vraiment ça qui est en jeu. Et c'est vrai que le fait de recruter Manuel Barroso, c'est recruter quelqu'un qui connaît tous les négociateurs, qui connaît absolument tous les rouages, qui sait exactement là où il faut, à quelle porte il faut frapper. En ce sens, c'est un défaut de loyauté, à mon sens, vis-à-vis de l'intérêt général.
Un défaut de loyauté. Avançons tout doucement. Réaction juste du socialiste Matthias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur, qu'on a vu batailler dur sur le TAFTA, qui a vertement réagi sur les réseaux sociaux à l'annonce de cette possible nomination, faut-il dire nomination au recrutement d'ailleurs plutôt. En 140 signes, il a qualifié Barroso de représentant indécent d'une vieille Europe que notre génération va changer. Alors avant que l'Europe n'implose complètement de l'intérieur, est-ce qu'il n'est pas effectivement temps quelque part de tourner une page, de changer de pratique et de mentalité? En aparté juste, hier s'est ouvert un 14e round de négociations à Bruxelles. Le traité de libre-échange transatlantique États-Unis-Union européenne, plus personne n'y croit, Laurence Yalom, mais tout le monde négocie encore.
Oui, effectivement.
Quand on voit que pour le Canada, il va falloir faire voter tous les parlements nationaux, franchement, pour un Européen, c'est...
Apparemment, Juncker a dit que ça passerait sans le vote des parlements nationaux. Hein.
Jean-Claude Juncker, donc l'actuel président de la Commission européenne.
Parce que il y a quand même une espèce de contradiction. Soit on est sérieux sur le fait que c'est une souveraineté partagée et donc nous mettons tous nos espoirs dans le commissaire européen chargé du commerce extérieur qui va négocier comme une grande puissance.
L'Union européenne
est une grande puissance qui fait peur quand elle rentre dans une salle de négociation. Ce que d'ailleurs le Royaume-Uni va bientôt expérimenter à ses dépens. Donc soit on est sérieux et on joue le jeu, mais ça n'a aucun sens de demander à chaque pays européen. C'est comme demander à l'Auvergne qu'est-ce qu'elle pense. Il faut faire voter le Parlement d'Auvergne sur une loi qui est votée au niveau national.
Là, effectivement, en espèce, chaque pays européen n'a pas sa voix dans les négociations. Il y a un représentant pour l'Union européenne. En revanche, au sein de l'Union européenne, des pays peuvent aussi poser leur veto.
C'est de cela que la France
menace aussi aujourd'hui, effectivement, avant la négociation. Laurence Yalom,
oui,
en un mot juste.
Sauf que je suis d'accord avec Agnès Benassi, l'Europe potentiellement est une très grande puissance économique, mais ne se comporte pas comme telle. Elle se comporte dans les décisions au sein du Conseil comme une addition d'intérêts nationaux et on va toujours vers le moins-disant.
Alors pendant ce temps, toujours à propos de moins-disant et d'intérêts nationaux, Londres s'apprête à ouvrir les portes du 10 Downing Street à Theresa May, désormais seule candidate au job de Premier ministre. Cette eurosceptique dans l'âme qui avait pourtant rejoint le camp du Remain aux côtés de David Cameron, elle a promis de durement négocier les conditions de la sortie du Royaume-Uni avec Bruxelles. Quelles conséquences économiques pour l'Europe? Est-ce que c'est un coup dur? C'est des questions qu'on commence à sacrément se poser depuis deux semaines. Mais vous évoquiez à l'instant, Laurence Yalom, on va peut-être ouvrir là-dessus, la place de la City au cœur des négociations. Pour vous, Agnès Benassi-Kéré, quel scénario se dessine?
Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que le calendrier s'accélère au Royaume-Uni. Donc plus vite les choses seront clarifiées, mieux ce sera pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne, puisque l'incertitude arrête les investissements et donc fait baisser le taux de croissance mécaniquement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, négocier durement, il ne suffit pas d'être dur. Je pense que la carte qu'elle va essayer de jouer, évidemment, c'est la division. Et donc c'est le piège pour les Européens.
Et
malheureusement, la division, elle risque d'avoir des billes pour la jouer. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout unis. Et notamment, les pays de l'Est de l'Europe pour lesquels la Grande-Bretagne a fait vraiment le pressing pour qu'ils rentrent. Enfin, c'est quand même, faut bien comprendre le paradoxe. Aujourd'hui, une grande partie des opposants importants à plus de solidarité, outre l'Allemagne, ce sont des pays de l'Est, et c'est le Royaume-Uni qui a fait fortement pression pour que ces pays rentrent dans l'Union, alors même que maintenant ils partent et que c'est une épine dans le pied pour aller vers un nouveau modèle de gouvernance européenne.
Mais vous dites l'une et l'autre jouer la division. Alors quels sont les thèmes pour un chantage éventuel, ou quels sont les instruments de la division? Ce serait sur quoi? Sur les questions économiques donc, directement pour vous?
On a un piano avec trois touches. Mm-hmm. Il y a la liberté commerciale, mm-hmm. donc faire partie mm-hmm. de l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment le premier pavé. Commercer sans droit de douane avec les pays de l'Union européenne, voire faire partie du marché unique, donc comme l'est la Norvège. La deuxième touche, c'est le fameux passeport financier dont on parlait. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la City? Est-ce que elle va pouvoir de Londres vendre des services financiers, ou il va falloir passer par des filiales dans l'Union européenne?
En gros, est-ce que le marché européen lui restera ouvert ou pas
pour les services? Et la troisième touche, c'est l'immigration. Et là, c'est la touche la plus faible peut-être pour les pays européens, parce que on voit bien que ça craque un peu dans tous les sens, parce que les Européens eux-mêmes ont des difficultés avec leurs opinions publiques.
Laurence Yalom.
Oui, bien sûr. Et faut bien comprendre que notamment pour ce qui est du passeport financier européen, il y a des conséquences importantes en termes d'emplois hautement qualifiés. Hein. Si certaines banques implantées à Londres sont obligées d'avoir des filiales, si par exemple les transactions en euros et les compensations en euros sont obligées de se faire sur le continent. Donc il y a vraiment la question de la place financière européenne dominante du futur.
Alors justement, Laurence Sialom, enfin on sait là-dessus que Paris essaie de se positionner, elle est loin d'être la seule ville, avec Francfort, avec les Pays-Bas aussi, etc., etc. Mais juste, une autre conséquence de ce Brexit, on évoque aujourd'hui la fragilisation des banques un peu partout en Europe, la crainte aussi d'un effet domino. C'est l'Italie qui est en train de trembler en ce moment, et qui pourrait être demain un nouveau foyer de la crise économique européenne
et financière. Tout à fait. Et la crise bancaire italienne, qui est plus que larvée, est vraiment un test pour l'union bancaire, qui était présentée comme la grande avancée institutionnelle récente. Pourquoi? Eh bien parce que on n'a toujours pas d'assurance dépôt européenne. L'Allemagne s'y oppose farouchement. Et on a instauré ce qu'on appelle les mécanismes de renflouement interne. C'est-à-dire l'idée, c'est que ce ne sont plus les contribuables qui sont en première ligne si les banques sont fragilisées, mais on va transformer en capital des titres de dette. Ce sont donc les créanciers des banques qui sont en première ligne. Le problème étant qu'en Italie, ce sont beaucoup des épargnants qui sont détenteurs de ces types de dettes, et qui donc potentiellement peuvent être spoliés en cas de recapitalisation interne de ces banques. Or, actuellement, les banques italiennes sont très fragilisées. On parle de 360 milliards d'euros de créances douteuses et d'un besoin de recapitalisation de l'ordre de 40 milliards aujourd'hui. Sachant que il est très difficile pour les banques italiennes de lever du capital aujourd'hui, justement parce que tout le monde connaît cette fragilité des banques italiennes. Et sachant que si la crise bancaire italienne repart, on a aussi une source majeure de réactivation de la crise de la dette souveraine, parce que qui détient les titres de la dette souveraine italienne? Majoritairement des banques italiennes. Donc ça veut dire que vous avez un cercle vicieux, et probablement c'est le prochain point de fragilité après le Royaume-Uni.
Agnès Benassi-Kéré, on conclut peut-être là où on avait commencé, du forum annuel de la BCE fin juin, aux rencontres économiques d'Aix en Provence début juillet, deux grandes messes économiques. Tous les acteurs semblaient encore sidérés deux semaines après le Brexit. Est-ce que, pour reprendre la question de départ, l'Europe n'est bonne qu'à sanctionner, qu'à tenir une position de fermeté? Ou est-ce que vous voyez aujourd'hui, dans la crise actuelle, un début de solution qui peut aussi réveiller le projet économique européen?
Grande question. Alors c'est clair que l'Europe a beaucoup avancé par succession de crises. Hein, et donc l'union bancaire dont on parle, elle est issue de la crise de 2008. Donc de ce point de vue, effectivement, on peut anticiper éventuellement un rebond. La grosse question, c'est l'union, en particulier entre la France et l'Allemagne, où on voit que c'est pas du tout les Britanniques qui bridaient les Français et les Allemands pour aller de l'avant en termes d'intégration et de corriger ce qui ne va pas dans la gouvernance européenne. On a une vision allemande tout à fait claire qui est Maastricht 2.0, qui est revenons à l'esprit de Maastricht et faisons-le correctement, de manière crédible, avec une règle de non-renflouement qui soit effectivement appliquée et qui va discipliner les marchés. Voilà la version allemande. Et la version française, on ne la connaît pas très bien. Elle n'est pas exprimée de manière cohérente. Donc ça, c'est une première faiblesse. Et deuxièmement, si elle était exprimée, elle aurait du mal à être compatible à la version allemande. Et donc, de ce point de vue, nous ne sommes pas prêts à aller de l'avant. Mais bon, peut-être dans les semaines à venir, les choses vont se... s'améliorer.
Voilà, profiter du Brexit pour mettre en place une véritable gouvernance économique tirée par un moteur franco-allemand, on n'est pas encore prêt, mais un semblant d'espoir pour terminer cette discussion. Merci beaucoup Agnès Benassi-Kéré, merci à vous Laurence Cialom.
C'est l'été sur France Culture. France Culture et Le Monde présentent la 30e édition des Rencontres de Pétrarque. Aujourd'hui à 17h, en direct et en public du rectorat de Montpellier, dépasser la crise du progrès. Avec Cynthia Fleury, Michael Fossel et Jean-Noël Jeannenet. Débat animé par Hervé Gardette et Jean Birnbaum. Les rencontres de Pétrarque avec le Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Plus d'infos, franceculture.fr.
Restez avec nous dans 20 minutes. Le deuxième invité des matins est un artiste, Bertrand Lavier.